Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici à la porte du carême. Et juste avant de nous voir commencer la Sainte Quarantaine, le bon Dieu nous rappelle que la pénitence ne vaut absolument rien si notre âme n'est pas disposée à cette pénitence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous ayons dans notre âme une vertu qui va en quelque sorte sanctifier cette pénitence. De même que l'âme va illuminer le corps, que l'âme et le corps sont en quelque sorte unis étroitement, on dit que l'âme est la forme du corps, qu'un corps sans âme est un corps mort. De la même façon, il va falloir une vertu spéciale pour illuminer la foi et l'espérance. Donc, si j'ai la foi, je peux croire tout ce qui est dans le catéchisme. Je peux accepter tout l'enseignement du catéchisme traditionnel. Je peux faire des tas de choses. Mais s'il me manque la charité, c'est comme si j'avais un livre magnifique que je ne peux pas lire parce que je n'ai pas de lumière pour éclairer. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Église nous demande, nous rappelle en ce début de temps qui amène au carême, juste avant la porte du carême, nous rappelle que la vertu de charité est absolument nécessaire. Et tout ce que nous faisons et tout ce que nous pouvons faire, si ce n'est pas illuminé justement par cette charité, ça ne sert absolument à rien. Et c'est, je crois, très important de comprendre cela aujourd'hui, justement où les gens tombent de plus en plus dans le naturalisme et dans l'activisme. Ils ont l'impression que s'ils font de l'action, ils plaisent au bon Dieu. L'action plaît au bon Dieu à condition qu'elle soit illuminée par la charité. L'action plaît au bon Dieu à condition que cette action ait pour intention d'augmenter en nous la charité ou d'augmenter en nous la charité dans les âmes de ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi l'Église a choisi cette page magnifique pour l'épître d'aujourd'hui, l'hymne à la charité de saint Paul. 1 aux Corinthiens, chapitre 13. On dit que c'est la plus belle page des épîtres de saint Paul et c'est sans doute vrai. Mais c'est en même temps une des pages les plus dures de saint Paul. Parce qu'encore une fois, il faut se rappeler ce qu'est la vertu de charité. Ce sont des choses sur lesquelles il nous faut insister aujourd'hui plus que jamais. La charité, ce n'est pas du tout ce que les gens pensent qu'elle est aujourd'hui. Quand on parle de charité à la plupart des gens aujourd'hui dans la rue, ils pensent immédiatement à aider les pauvres, à aider les gens dans la difficulté. Mais ce n'est pas du tout de cette charité-là dont parle notre Seigneur Jésus-Christ. La charité dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vertu théologale de charité. Dans le mot théologale, vous avez déjà tout. Théos, en grec, ça veut dire Dieu. Donc la vertu théologale, c'est une vertu qui est centrée sur Dieu. Donc une charité qui n'est pas centrée sur Dieu, ce n'est pas la charité. Puis directement, ce n'est pas la vertu théologale de charité. Donc il faut bien distinguer entre la vertu naturelle de charité et la vertu surnaturelle de charité. Vous pouvez encore une fois, nous dit saint Paul, faire des tas de choses dans votre vie. Il va très loin dans les exemples qu'il donne. Et vous pouvez avoir toute la science, toute la connaissance possible. Si vous n'avez pas la charité, ça ne vaut rien. Vous pouvez même faire des miracles. Déplacer les montagnes, dit-il. Si vous n'avez pas la charité, ça ne vaut rien. Vous pouvez vendre tous vos biens et donner tous vos biens aux pauvres pour les nourrir. Si vous n'avez pas la charité, ça ne vaut rien. Il va même encore plus loin si vous même acceptez de brûler votre corps, c'est-à-dire de tomber dans le martyr, d'être martyrisé. Si vous n'avez pas la charité, ça ne vaut rien. Et quelqu'un qui donne sa vie pour les autres, même je dirais quelqu'un qui donne sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'a pas la vertu théologale de charité, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas dans l'intention justement d'aller vers le bon Dieu, à ce moment-là, ça ne vaut rien. En bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas en moi cette vertu qui me lie à notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je fais devient de la bouillie pour char. Donc la vertu naturelle de charité. La vertu surnaturelle de charité, c'est donc ce qu'on appelle en français l'état de grâce. C'est la même chose. La vertu naturelle de charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vit dans l'âme qui est en état de grâce, dans l'âme qui vit selon les commandements du bon Dieu, l'âme qui a soigneusement éliminé le péché mortel. Et encore une fois, on peut faire des tas de choses plus extraordinaires les unes que les autres. Si je n'ai pas l'état de grâce en moi, c'est-à-dire si je n'ai pas la vie divine en moi par l'état de grâce, eh bien, tout ce que je fais ne vaut plus rien du tout. Et il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. Je vous donner quelques exemples tout simples pour vous aider à bien comprendre ce que je vous dis, parce que ça me semble très important. Imaginez un policier ou un pompier qui meurt dans un feu, par exemple, en essayant de sauver tout le monde. Eh bien, il fait peut-être un acte héroïque de charité naturelle. Un pompier qui meurt dans un feu, par exemple, en essayant de sauver une vieille grand-mère qui est en train de brûler au 10e étage d'une maison ou d'un immeuble, il la sauve, il meurt dans le feu, c'est un acte naturel de charité. Est-ce que c'est cet acte naturel de charité qui va l'envoyer au ciel? Bien sûr que non. Parce que par exemple, si ce pompier vit tranquillement, ou ce policier vit tranquillement avec la femme du voisin dans la vie de tous les jours, le fait qu'il ait sauvé une vieille grand-mère qui vivait, qui était dans le feu, ne va pas changer le fait que malheureusement il vit dans l'état de péché mortel. Donc avant de chercher à faire des tas de choses extraordinaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer par remplir la loi du bon Dieu. Mais je connais tout mon catéchisme par cœur. Je connais tout votre catéchisme par cœur. Si votre catéchisme ne trouve pas son amplification dans votre vie de tous les jours, si on ne vit pas selon notre catéchisme, ça ne vaut plus rien. C'est ça qui explique tout à fait la catastrophe des années 60. Autour des années 60, juste avant le Concile Vatican II, les gens connaissaient leur catéchisme. La plupart des catholiques connaissaient leur catéchisme, même pas mal. Qu'est-ce qu'il en manquait? Il y avait une charité, pardi. Avec une charité, parce qu'ils ne voulaient pas connecter ce qu'ils connaissaient par le catéchisme à leur vie de tous les jours. Et donc, la charité n'était plus. Leur foi, leur espérance n'était plus illuminée par la charité. Saint Thomas d'Aquin dit qu'une foi et une espérance qui ne sont pas connectées à la charité sont des fois qu'on appelle informes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus la vertu de charité pour donner la forme de la vertu de foi, de la vertu d'espérance. Cette forme, c'est quoi? C'est la vie, tout simplement. Donc on peut dire qu'une foi et une espérance qui ne sont pas connectées à l'état de grâce sont une foi et une espérance qui sont mortes ou moribondes. On peut parler au ciel avec une foi moribonde. On peut parler au ciel avec une espérance moribonde. Donc la première question que le bon Dieu va nous poser le jour de notre mort, c'est quoi? Êtes-vous dans la charité surnaturelle? Êtes-vous en état de grâce? Et si vous dites, oh oui, mais vous comprenez, mon Dieu, je ne suis pas en état de grâce, mais j'ai donné des millions pour aider les catholiques dans le monde entier. Très bien, ça vaut rien, puisqu'il vous manque l'essentiel. Ah mais je ne suis pas en état de grâce, mon Dieu, mais vous comprenez, je nourris tous les jours 3000 pauvres. Ça vaut rien, puisqu'il vous manque l'essentiel. Voilà, mes bien chers frères, le sens dans lequel il faut comprendre cet hymne de la charité. Vous avez sans doute entendu parler, par exemple, de Mère Teresa. Qui nous a rabâché les oreilles pendant des années et des années, qui nourrit tous les pauvres à Calcutta. Très bien, mais c'est la même chose. S'il n'y a pas la charité, ça ne vaut rien. Mère Teresa nourrissait peut-être tous les pauvres de Calcutta, elle faisait quelque chose de magnifique sur un plan naturel, mais elle passait entre ses mains des dizaines et des centaines et des milliers d'enfants même et qui étaient en train de mourir parce qu'il y a une mortalité infantile terrible dans ce milieu-là. Elle n'a pas baptisé un seul. Pourquoi? Parce qu'il fallait respecter la foi des parents. Et elle disait, l'important pour un musulman, c'est de bon musulman. L'important pour un bouddhiste, c'est un bon bouddhiste. Et l'important pour un hindouiste, c'est d'être un bon hindouiste. Il n'a jamais cherché à convertir qui que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait, c'est rien. Et même chez l'abbé, elle est canonisée dans l'église de Vatican II. Ça lui fait une belle jambe, tiens. Être canalisé par un bandit. Mais bien chéver, comme il faut se rappeler ces choses essentielles. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la même chose. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a cette annonce, justement, c'est Saint-Luc chapitre 18, il y a cette annonce qui explique que Dieu donne sa vie pour nous. La plus belle preuve de la charité, c'est quoi? Pour quelqu'un qui est en état de grâce, c'est évidemment de donner sa vie pour celui qu'il aime, pour aider l'autre à monter vers le ciel lui aussi. Et c'est ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime, notre Seigneur Jésus-Christ qui ne veut qu'une seule chose, c'est que nous montions avec lui au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ va annoncer précisément sa passion. Il annonce, et il va le faire plusieurs fois, qu'il va être vilipendé, qu'il va être conspué, qu'il va être moqué, qu'on va le brutaliser, qu'on va le couronner d'épines, qu'on va le crucifier, qu'il va le mourir sur la croix comme un voleur, et que le troisième jour il ressuscitera. Et malheureusement, les apôtres même ont oublié ces dernières affirmations de notre Seigneur. Ils ont oublié que notre Seigneur avait dit, après ma mort, sur la croix, je ressusciterai le troisième jour. Et l'évangile d'aujourd'hui le dit très bien, ils ne comprirent pas. Et nous, mes bien chers frères, on est un peu pareil, c'est que nous non plus, nous ne comprenons pas ces choses-là. Parce que justement, nous sommes tombés dans une espèce, pas tous heureusement, mais nous sommes tombés dans une espèce de naturalisme. On ne voit plus que le naturel, on oublie le surnaturel. Et encore une fois, le naturel sans le surnaturel, c'est plus rien. Et ceci est une erreur monumentale qui est enseignée partout maintenant par l'Église de Vatican II. Et malheureusement, ces erreurs passent aussi parfois dans les cervelles de nos fidèles. Ils vont dans l'Église de Vatican II jusqu'à dire que le surnaturel est une partie du naturel. Ils vont jusqu'à dire que la grâce est une partie de la nature. Et que donc, puisque c'est une partie de notre nature humaine, tous les hommes ont la grâce. Et puisque la grâce est nécessaire pour aller au paradis, donc tous les hommes vont au paradis. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement de Jean-Paul II, c'est l'enseignement de François et de tous ces bandits qui ont détruit la foi catholique. Mais bien, chers frères, comme il faut s'accrocher à ces choses-là. Mais monsieur l'abbé, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut faire, suivre l'exemple de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que dit l'évangile d'aujourd'hui? Je parle d'un aveugle. Un aveugle qui est sur le bord de la route et qui mendie parce qu'il ne peut pas travailler à cause de sa cécité, il ne peut plus rien voir, il ne peut plus travailler. Il entend une foule qui arrive près de lui et il demande aux gens qui sont à côté, c'est qui? Qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est Jésus de Nazareth, le grand prophète. Immédiatement, il monte sur ses pieds et il se met à crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. On le fait taire, chut, vous dérangez tout le monde. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Chut, pas faire tant de bruit. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui a entendu, parce qu'il est Dieu et qu'il entend nos prières, il l'appelle. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Et le bon Dieu fait le miracle et lui rend la vue. Mais bien, chers frères, faire pareil. Nous aussi, il faut faire exactement la même chose et dire nous aussi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. Seigneur, je vous aime, mais augmentez ma charité. Seigneur, je vous aime, mais augmentez mon espérance. Et que va nous dire notre Seigneur? Le bon Dieu va nous dire que votre volonté soit faite. Retrouvez la foi, retrouvez l'espérance, retrouvez la charité. Ah bien, chers frères, À ce début de carême, on n'est pas encore en carême, on y arrive dans 3 jours, juste avant cette grande quarantaine, que devons-nous faire? Mais nous devons vérifier donc qu'il y a en nous cette vertu de charité, donc vérifier qu'il y a en nous l'état de grâce. Encore une fois, si je n'ai pas l'état de grâce, je ne suis rien. Vous voyez, c'est une chose très intéressante de voir que la plupart des exemples qui sont donnés dans le monde moderne, de gens qui pratiquent cette vertu de charité naturelle, eh bien, sont comme par hasard, presque toujours, des gens qui ne pratiquent pas la vertu surnaturelle. Il manque toujours quelque chose. Je vous donne encore un exemple tout simple. Regardez tous ces activistes modernes qui vont se battre pour sauver les arbres, ou sauver les bébés phoques, ou sauver les baleines. Très bien. C'est un péché de se battre pour sauver les baleines. Bon. Vous pouvez sauver les baleines si vous voulez, ça ne me gêne pas du tout. À condition d'être en état de grâce quand vous sauvez les baleines. Mais c'est très intéressant de voir que tous ces gens qui veulent justement, pour des raisons naturelles, faire que des choses naturelles, il leur manque toujours l'élément surnaturel. Et une chose qui m'a le plus frappé, c'est que tous ces activistes qui veulent sauver les fleurs, ou sauver les arbres, ou sauver les baleines, ou sauver les bébés phoques, ils sont toujours pour l'avortement. Sauver les choses naturelles, oui, à condition de tuer les enfants dans le sein de leur mère. Et il leur manque le plus important. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est qui est très connu aussi, l'exemple de l'abbé Pierre. L'exemple de Sœur Emmanuelle au Caire, chez les chiffonniers du Caire. Exactement la même chose. Des gens qui font beaucoup sur un plan purement naturel, il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel. Et donc, demandons justement au bon Dieu cette grâce. Est-ce que j'ai l'essentiel en moi? Est-ce que je vis en état de grâce? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre en état de grâce? Sinon, je perds mon temps. Alors peut-être qu'en ce début de carême, qui arrive maintenant dans 2 jours, dans 3 jours, eh bien, il nous faut précisément retrouver l'état de grâce pour une bonne confession. L'Église, n'oubliez pas, oblige au moins, au minimum, la communion et la confession pendant le, non pas le temps pascal, mais pendant le... pendant ce qu'on appelle, pas pendant tout le carême, mais pendant au moins le temps juste avant et juste après, juste après la fête de Pâques. En France, je crois que le temps pascal, c'est le temps pour la communion, c'est du 15 jours avant, 15 jours après Pâques. Donc il faut demander cette grâce. Monsieur l'abbé, vous ne comprenez pas, moi je suis faible, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le courage. Faites ce qu'a fait l'aveugle de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Venir se mettre devant le sacrement, s'agenouiller devant le sacrement et demander les grâces. Mais je me suis agenouillé 5 minutes, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Vous allez vous rajeunir de nouveau. Et vous répétez les mêmes choses, c'est pas pour rien dans l'évangile que cet aveugle qui nous est donné un exemple va multiplier son appel au bon Dieu. Il faut multiplier l'appel au bon Dieu parce que le bon Dieu a promis de répondre à nos appels. Mais il veut être sûr qu'on appelle pour les bonnes raisons. Et donc, il faut multiplier nos appels pour que le bon Dieu vienne nous s'occuper de nous et nous aider. Dans l'ancien temps, c'était comme ça, avant de rentrer en vie religieuse. Parce qu'un jeune au Moyen-Âge voulait rentrer, par exemple, dans un monastère bénédictin, il frappait à la porte pour demander à rentrer, être reçu comme postulant. Qu'est-ce qu'on lui disait? On n'a pas besoin de vous, allez, partez. Correspondait pas du tout au profil que nous cherchons ici dans le monastère, profil religieux. Allez, reportez. Il fallait qu'elle vienne 15 jours après, redemande à rentrer. Je voudrais rentrer, être accepté comme postulant. Oh, on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas assez doué, pas assez intelligent, pas assez intéressant pour nous. Il fallait qu'il revienne et la troisième fois on l'acceptait. Mais c'est pareil avec notre Seigneur. Multiplier cette présence devant le Saint-Sacrement, multiplier cette présence devant notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le Saint-Sacrement par avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les formes, sous les apparences extérieures de pain. Multipliez votre demande, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Je suis un pauvre gars, je suis une pauvre fille, mais j'ai besoin de vous. Et notre Seigneur Jésus-Christ va nous ouvrir les yeux. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa mansuétude, dans sa charité extraordinaire, justement, va prendre sur nous nos péchés. C'est pour ça qu'il devient homme. Il devient homme pourquoi? Il devient homme pour pouvoir mourir. Il devient homme pour mourir pour nous, puisque nous sommes coupables de péché, nous ne voulons pas faire pénitence. Celui qui est innocent va faire pénitence à notre place. Mais il demande d'accepter, de coopérer à cette pénitence. Il ne s'agit pas simplement de méditer comme les protestants, le modernisme sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et d'oublier toutes les raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ souffre sur la croix. La foi ne suffit pas, mais bien cher frère, il faut justement cette charité dont nous parle Saint Paul, dont nous parle aussi l'évangile de Saint Luc d'aujourd'hui. Alors si j'ai la charité, si je vis de cette charité, alors cette charité va illuminer tout ce que je fais. Une toute petite chose faite avec un once de charité vaut beaucoup plus devant Dieu qu'une chose énorme faite sans charité. Parce qu'en fait, la chose énorme faite sans la charité surnaturelle ne vaut absolument rien. C'est une chose purement extérieure. En demandant, mes bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses-là. S'il y en a une qui avait la charité, c'est bien elle. Et c'est la raison pour laquelle la seule qui n'a pas perdu la foi au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est elle. Tous les apôtres ont perdu la foi à ce moment-là parce qu'ils avaient oublié l'annonce de notre Seigneur. Le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Ils avaient oublié cette annonce. Et quand ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ être vilipendé, être conspué, être couronné d'épines, être crucifié, ils se sont dit, c'est pas possible. C'est pas possible que notre chef, notre grand roi, notre maître meure dans des conditions pareilles, tout envoyé promener. Et ils sont enfuis comme des lapins, tous, sauf la Sainte Vierge. Sauf notre dame qui, elle, est restée parce qu'elle savait « Mon fils ressuscitera le troisième jour ». Alors n'oublions pas, mes chers frères, surtout aujourd'hui, quand nous voyons L'Église passait aussi par cette passion épouvantable, ces millions et millions de gens qui quittent l'Église catholique pour aller dans une fausse Église, l'Église de Vatican II, pour tout abandonner, ce qu'ils vivent eux-mêmes. Eh bien, il faut se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il a souffert dans son corps, en tant que Dieu, que Dieu uni à un corps humain, eh bien, il demande aussi à son Église et à son corps mystique aussi de passer par les mêmes souffrances. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais promis qu'il y aurait des millions et des millions de catholiques. En fait, il a promis le contraire. Il a promis un petit troupeau, il a parlé d'un petit troupeau. Et quand la fin viendra, disait-il, qui sait si je trouverai encore la foi sur la terre? Donc en nous voyant l'Église, humainement parlant, se rétrécir, presque comme une peau de chagrin, et ne demeurer plus que dans, je dirais, dans des familles catholiques, à droite et à gauche, qui restent et qui conservent la foi, il ne faut pas perdre la foi pour autant. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu, et il ressuscitera le troisième jour. Même s'il meurt le vendredi saint, notre Seigneur ressuscite trois jours plus tard. Même si nous avons dans l'Église actuelle, dans l'Église à laquelle nous appartenons, l'Église catholique, nous avons parfois un peu l'impression qu'il est en train de mourir littéralement. Même si l'Église catholique meurt, elle ressuscitera le troisième jour avec son maître. En fait, l'Église ne peut pas mourir parce que précisément elle est unie à cette divinité. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre toutes ces belles choses, à les expliquer à nos enfants, à expliquer à nos enfants l'importance de la confession pour pouvoir justement avoir en nous toujours cette vertu de charité, cette vertu théologale de charité, et aimons à répéter l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, parce que vous êtes infiniment, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'avoir de vous. Et j'aime mon prochain pour aider mon prochain à monter vers le bon Dieu. J'aime mes enfants parce que je veux aider mes enfants à monter vers le bon Dieu. J'aime mes paroissiens parce que le prêtre doit aider, évidemment, c'est son rôle, les paroissiens à monter vers le bon Dieu. Alors nous demanderons avec beaucoup d'humilité ces trois vertus de foi, d'espérance et de charité, surtout la vertu de charité qui est la forme justement de cette vertu de foi, cette vertu d'espérance. En répétant derrière l'aveugle, après l'aveugle de l'évangile, « Seigneur, ayez pitié de moi. » Et notre Seigneur va finir par nous entendre et nous dira « Soyez guéris, que votre volonté soit faite. » Alors demandons à notre Seigneur Jésus-Marie de nous guider, nous apprendre à nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. L'aveugle de l'évangile a dû s'approcher de notre Seigneur. Tant qu'il était à distance, il ne pouvait rien faire. Il a dû s'approcher de notre Seigneur. Là, il a trouvé de nouveau la vue. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.